Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. La cuisine, on le dit souvent ici, c'est l'un des derniers remparts avant que tout s'efface. Les gestes, les savoir-faire, les goûts filent bien au-delà des frontières, bien au-delà des murs. Ils survivent aux morsures du temps et aux bâillons. La cuisine est parfois le témoignage ultime d'une culture, d'un peuple, et ce témoignage, il faut le transmettre et le raviver constamment. C'est presque parfois un sacerdoce, en tout cas souvent une urgence. Bonjour Fatih Catan.
Bonjour Clémence.
Merci d'être avec nous. Nous sommes heureux de vous recevoir ici à Paris.
C'est un plaisir.
C'est un bonheur, on peut voir votre tête. Vous êtes chef cuisinier franco-palestinien. Votre restaurant est à Bethléem, en Cisjordanie. Et il est fermé depuis le début de la crise sanitaire que l'on traverse encore. Mais la cuisine palestinienne, elle, votre cuisine, elle se fait entendre, et très largement, elle fait feu de tout bois, même j'ai envie de dire, sur les réseaux, en vidéo, en podcast, elle vit cette cuisine en anglais et en arabe, en gestes et en partage. Fatih, comme on n'y est pas à Bethléem, j'aimerais bien faire semblant de fermer les yeux, mais je vais vous écouter tout ouïe, et j'aimerais bien que vous nous emmeniez chez vous, et que vous nous décriviez un petit peu où est-ce qu'on est, avec qui on est. Qu'est-ce qu'on mange ?
On est bien sûr avec Jésus, à Bethléem.
À Bethléem. On est à côté de la nativité.
On est à quelques pas de la nativité. On mange, à cette heure-ci, probablement, des falafels tout chauds chez Eftim. Ou, si on est un peu plus courageux, on suit ce chef dingue, moi, chez mon boucher, et on mange une tranche de foie d'agneau palestinien avec un tout petit peu d'huile d'olive.
Donc cru.
Cru. Ça, c'est le... pour moi, la garantie de la qualité de mon boucher. Je ne risquerai jamais ma réputation en découpant un morceau et vous le donnant à manger. Puis le trademark, c'est je le dépose dans la bouche des gens avec moi. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus fin dans le souk de Bethléem.
D'accord. C'est une vitamine aussi.
Bien sûr.
Parce qu'un foie cru, c'est...
Foie cru, huile d'olive extra vierge palestinienne, là, c'est l'énergie pour le reste de la journée.
Cette huile d'olive qui a une des caractéristiques aussi qu'on ne connaît pas du tout, en fait, de ce côté-là du monde. Je crois qu'on dit d'elle qu'elle est assez poivrée.
C'est une huile d'olive qui est déjà très soyeuse dans la texture et avec cet arrière-goût poivré qui arrache un peu. Et pour moi, c'est un goût qu'on acquiert. C'est un goût... On grandit avec ce petit morceau de pain de tabboune qu'on trempe dans l'huile d'olive. Pour moi, c'est un des plaisirs de toutes les saisons. C'est au moment où on presse notre huile d'olive, je vais à la presse et j'attends ces premières gouttes d'huile d'olive de mes oliviers. Et c'est ce goût qui arrache que je trouve superbe.
Ils sont où, vos oliviers ?
À Beit Jala, à l'ouest de Bethléem, un petit village... qui est supposément le meilleur terroir pour les huiles d'olive palestiniennes. Après, supposément, c'est un peu une querelle de petits villages. On pense tous qu'on a notre meilleure huile d'olive. Et je pense qu'elles sont quand même particulières.
Déjà, est-ce que vous avez grandi, vous, à Bethléem, Fatih ?
Oui, moi je suis né à Bethléem. J'ai grandi à Bethléem d'une famille palestinienne, mais une famille qui a beaucoup voyagé avant. Et donc, j'ai passé la plupart de ma jeunesse à Bethléem, avec beaucoup d'allers-retours en France.
Qui vous a appris à cuisiner ?
Teta. Le mot magique, c'est Teta, c'est grand-mère en arabe. C'est ma grand-mère. La cuisine de ma grand-mère, pour moi, ça a été la découverte des goûts et la découverte de la cuisine. Et puis, bien sûr, ma maman. Petit secret, je continue à appeler ma mère, même en cuisine, certains matins, en disant « Je me lance, je vais déconstruire tel plat. Mais tu peux me dire ce que tu fais toi à l'origine avec ?» Et bien sûr, je n'arriverai jamais à recréer les goûts que ma mère crée dans sa cuisine. C'est beaucoup de symbolique quand même. Je ne pense pas qu'on puisse être objectif sur les cuisines de nos mères, mais on pense qu'elles sont les meilleures, toujours.
Toujours. Et cette cuisine de votre grand-mère, vous faisiez quoi ? Vous étiez à côté d'elle, vous goûtiez ? Comment ça se passait ?
Au tout début, j'avais surtout le plaisir d'avoir mon petit déjeuner servi. Des œufs frits dans de la samna. La samna, c'est la graisse animale avec du sumac. Et puis quand j'ai grandi un tout petit peu plus, j'avais droit à la chata à côté. La chata était ce piment de Gaza. Et puis à l'âge de 6-7 ans, là j'ai eu le droit à donner un coup de main. Des fois, ça partait dans des expéditions de folie du genre ma grand-mère qui disait... on va faire des confitures sur du feu de bois. Et finalement, on cramait ces confitures. Et on disait à la famille, oui, oui, en fait, on a fait des pâtes de fruits parce qu'elles avaient cuit trop. Mais très souvent, c'était surtout donner un coup de main. Et ce qui était superbe dans la cuisine de ma grand-mère, c'est que c'était vraiment deux cuisines, je dirais. Une cuisine très, très traditionnelle palestinienne et puis une cuisine beaucoup plus française. Et j'avais un peu cet accès aux deux en même temps. Donc moi, j'ai des souvenirs de la cuisine, mais pas seulement de la cuisine. L'art de la réception. Mes grands-parents recevaient beaucoup. Et donc, j'ai aussi appris ça. Ça, c'est mon côté hôtelier. Ça vient de là. Les pires faux pas, c'était utiliser le mauvais service pour le plat qui n'allait pas ou pour le style de l'événement qui n'allait pas. Là, c'était la furie de ma grand-mère.
Mais ça, c'est votre côté français, clairement.
C'est mon côté français et puis palestinien. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir la Palestine sous un œil monolithique. La Palestine, c'est sa diversité. C'est les anciennes familles comme la mienne qui ont beaucoup, beaucoup voyagé. Mon père est né à Bombay. Mon grand-père maternel, lui, est né à Paris. Et ça, c'est palestinien. Vous savez, il y a un mot que je n'aime pas. C'est le Levant. Parce que pour moi, le mot du Levant, c'est un mot colonial. Mais le Levant, pour moi, si on parle d'un instant historique, la fin de l'Empire ottoman, c'est quand même un moment où à Damas, à Jaffa, à Bethléem, à Jérusalem, il y avait vraiment une société très, très cosmopolite, construite de Grecs, d'Arméniens, de Palestiniens, de Libanais, qui se croisaient, qui étaient là, d'Italiens. Et il y a une autre dimension aussi.
De religion confondue.
Mais bien sûr, jusqu'à la création de l'État d'Israël, il faut se rappeler que les Palestiniens étaient samaritains, chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées. On n'a jamais eu de distinction religieuse jusqu'à la création de cet État avec une religion unique.
Donc 1948,
le Nakba. Voilà. Avant ça, c'était un moment de richesse. Pour moi, c'est vraiment la beauté. Et d'ailleurs, quand on me parle de cuisine, vous savez, en ce moment, il y a cette mode de parler de cuisine religieuse. Ça me fait doucement sourire. Je ne pense pas qu'il y ait une cuisine religieuse, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne, bouddhiste ou autre. C'est des cuisines locales adaptées après à des croyances...
Local également,
voilà.
Vous nous parliez de votre grand-mère. Elle est un peu l'un des piliers de qui vous êtes aujourd'hui.
Our series is called Teta's Kitchen, and the Tetas are the grandmothers. Every Palestinian grandmother has a secret.
Donc notre série s'appelle Teta's Kitchen, je traduis. Les tétas sont les grands-mères. Chaque grand-mère palestinienne a un secret, et ce secret, c'est sa version d'une recette. C'est le mélange d'épices qu'elle va utiliser, les gestes, ses techniques de cuisine. Elles sont le reflet de la diversité d'un territoire. Chaque grand-mère aura son angle, la saveur qui lui ressemble totalement, dans la manière qu'elle a d'équilibrer les goûts, de sécher les produits. C'est ça, la magie. Comment ces grands-mères, de génération en génération, ont réussi à préserver notre cuisine. Quelle était donc la saveur qui caractérisait votre grand-mère, Fadi Katan ?
Waouh ! Y a un mot magique en arabe, c'est nafas. Nafas qui veut dire le souffle. Et toutes ces grand-mères dans cette série, quand je leur pose la question en disant « Mais c'est quoi votre secret ?», elles me répondent « C'est nafas ». Je pense qu'il est indescriptible, ce nafas. Ce nafas, c'est l'identité de cette grand-mère qu'elle infuse d'une manière magique, je dirais, dans ses plats. J'ai hérité de certains livres de cuisine que ma grand-mère utilisait, de certaines recettes écrites. Je les reproduis à 100% à l'identique. Et c'est pas pareil, il y a quelque chose. Après, ce qui est superbe dans cette cuisine, c'est les ingrédients, les quantités. Il y a des mots qui sont tellement puissants. Je me souviens, demandant à ma grand-mère, mais combien est-ce que tu mets de telle ou telle graine ou de telle... Et c'est souvent kamsha qui veut dire la portée d'une main. Racha qui veut dire une pincée, mais une pincée, ça veut rien dire. Et pour créer quoi finalement? Un mot que j'adore en arabe, l'oma. L'oma qui veut dire une bouchée. Et ça, c'est pas quantifiable, c'est juste le charme. Donc ma grand-mère, c'est quoi sa cuisine?
Les c'est pétales de rose.
C'est sa cuisine. La pétale de rose, c'est mon autre grand-mère. Les pétales de rose, donc ma grand-mère paternelle que je n'ai pas connue. Une des choses que j'ai appris, c'est qu'elle adorait les roses. Donc j'ai planté des rosiers partout dans mon jardin. Et j'utilise beaucoup les pétales de rose en hommage à elle.
Teta's Kitchen, c'est le nom de cette série. Elle est née comment, cette série? On a compris que vous étiez cuisinier, on a compris que vous aviez un restaurant dont on va parler, Fawda. Votre projet, c'est de mettre en lumière et de sauvegarder cette cuisine palestinienne. Et la meilleure façon, c'est de s'adresser à la meilleure des sources, à savoir les grands-mères, les mamies, les tétas. C'est ça, la série?
La série est venue dans la pandémie. C'est venu au moment où j'ai fermé mon restaurant, où je voulais continuer à faire ce que je faisais au restaurant, c'est partager ce plaisir de la cuisine palestinienne. Donc c'est venu au tout début par un podcast qui s'appelle « Sabah al-Yasmine ».
Ce qui veut dire
Ce qui veut dire « Le bonjour des jasmins ».
Ben voilà.
Où là, j'ai eu le plaisir d'enregistrer des recettes traditionnelles et aussi d'interviewer certains acteurs du monde culinaire. Et puis Teta's Kitchen est arrivé juste après, où dans ce confinement qui était quand même assez relaxé en Palestine, j'ai pu voyager, prendre le temps de rencontrer ces tétas et partager leurs recettes, mais aussi partager des villes. Pour moi, l'épisode qui a été le plus beau à faire, c'est Naplouse. Naplouse est une ville que j'adore. C'est se balader dans Naplouse. Et là, ce qui a été superbe dans Naplouse, c'est une ville que je connais et on s'est laissé emporter par ce souk, on s'est laissé emporter par ces producteurs, ces artisans vraiment dans la ville. Et puis on a rencontré une teta avec laquelle on avait prévu de cuisiner une maklouba, ce plat retourné palestinien.
Je crois qu'on peut l'écouter, la maklouba, parce qu'elle s'écoute, on est d'accord.
Oui, bien sûr.
Now, look at this. Can you hear it? مش ملزقة يا أم زهير تقلقيش مش ملزقة
بسم الله
واو This is beautiful
Beautiful Incroyable, cette maklouba. Donc c'est vraiment ce plat qu'on renverse sur un plateau, qu'on retourne. Il y a toutes les saveurs et la fumée qui s'en
échappe. Et la hantise des grands-mères, c'est que ce riz, une grande pourcent de ce plat est du riz, après il y a des légumes et de la viande en strates qu'on retourne, mais sa hantise, c'est qu'il soit collé dans le fond, d'où ce son qu'on tape sur la casserole. Et là, je lui dis justement, t'en fais pas, ta maklouba, elle est pas collée. Et en fait, je vous avoue un secret, moi j'adore quand elle est collée, ce bout de riz
caramélisé. Ce petit graton, on adore ça tout. Le premier épisode de la série, vous allez rencontrer Laurette, qui va faire des dawali. Dawali qui sont les feuilles de vigne et les courgettes farcies également.
Voilà.
Un autre plat que l'on retourne.
On ne retourne pas forcément. Si ma grand-mère m'aurait vu renverser ce plat de dawali, je pense qu'elle m'aurait foutu la casserole dans la tête. Ma grand-mère me forçait à avoir un petit bol d'eau froide dans lequel je trempais mes doigts. Et on les enlève une par une et on les arrange sur un plat de service. Mais en réalité, très souvent, on les retourne. Pour la facilité des choses. Donc, dawali, c'est les feuilles de vigne. Et kousamachi, c'est les courgettes farcies. Et là, dans ce plat-là, moi, j'ai triché. On a rajouté une troisième chose. C'est les courgettes séchées. Le kousarati, qui est un souvenir que j'ai de mon enfance et pas du tout de la cuisine de ma grand-mère. Dans le passé, on avait de vraies saisons. Les courgettes qu'on utilisait pour les courgettes farcies étaient d'une petite saison. Et on les salait et on les séchait pour pouvoir les réutiliser. C'est quelque chose qui a complètement disparu. J'ai refait ces recettes-là. Et là, avec Laurette, je lui fais la surprise en disant « Voilà, est-ce que tu te souviens de ça ?» Et à un moment, elle me dit « Oui, il y a 40 ans, j'ai goûté ça. » Et donc, on a farci aussi ces courgettes séchées et c'était superbe.
Ouais, et dans le goût, c'était assez incroyable.
C'est complètement différent. Il y a une intensité du goût de la courgette sur la texture. On est vraiment sur une texture beaucoup plus douce qu'une courgette fraîche, mais avec une intensité de goût beaucoup plus puissante.
Ouais, complètement là, c'est magique.
Sublime.
Ce qui est formidable dans ce premier épisode de cette saison, c'est qu'on découvre aussi Laurette qui a cuisiné pendant 3 jours ces fameuses feuilles de vigne, ces dawali et les courgettes farcies qui sont englouties en 5 minutes. Je vous propose d'écouter Hind Tarboub, qui est une cuisinière palestinienne. Son souvenir, les warad dawali.
C'est un plat comme ma grand-mère paternelle faisait tout le temps. Elle nous a ramené les feuilles de vigne d'Hébron. Hébron est une ville très connue par les vignes et les raisins en général. Et elle nous faisait des wara'inab dawali avec un agneau entier. Et ça, Je pense que c'est le souvenir de ma grand-mère le plus fort. Quelqu'un m'a demandé « qu'est-ce que tu aimerais manger comme le dernier repas ?» J'ai choisi Dawali, de ma grand-mère.
On est bien complètement dans cette idée-là, la grand-mère qui est gardienne de ce patrimoine culinaire.
C'est un patrimoine qui n'a pas eu de gardiennage écrit. Le dernier livre historique, je dirais, d'une cuisine, c'est Kitab al-Matbakh, qui date de Bagdad, du califat. Et puis après, ça a été une transmission orale. Et c'est ces grands-mères qui ont été vraiment les gardiennes de cette cuisine. Ça me fait plaisir d'entendre cette description de cet agneau entier avec des
Je crois qu'on aime bien les agneaux entiers. Ah. Des coups d'agneau, des coups de mouton farci, des... Est-ce que ça, c'est aussi une des caractéristiques? Parce qu'on essaye de toucher du doigt ce qu'est la cuisine palestinienne pour la conserver. Est-ce que ce sont des caractéristiques aussi de la cuisine palestinienne d'aborder l'animal dans son entier par respect pour l'animal ?
La générosité. C'est la générosité. C'est aussi simple que ça. Il y a vraiment cette approche de l'animal en entier.
Proche, local.
L'agneau est toujours local. Les fruits, les légumes sont toujours locaux. On ne va pas très loin. On va dans les villages autour, mais pas plus. Pour certaines spécialités, on va aller peut-être un peu plus loin. Donc de Bethléem, on va à Jéricho pour les dattes, on va à Gaza ou à Jaffa pour les oranges, mais pas beaucoup plus loin que ça. C'est l'avantage d'être dans un pays qui est très petit, avec des terroirs très différents. Vous allez à 80 km à l'est ou à l'ouest, vous êtes dans des terroirs complètement différents, avec des produits complètement différents.
Quelle richesse.
Le goût du monde... Clémence de Navi.
بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب.
L'art d'aimer, Darwish. Et le trio Joubran. Vous écoutez RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le goût du monde avec à notre table des dattes rapportées par Fadi Katan, chef cuisinier à Bethléem en Palestine. Et donc ce plat de Dawali dont nous avons parlé, c'est tous ces produits qui sont totalement locaux et cette cuisine palestinienne dont on va parler pendant toute l'émission. Fadi, votre restaurant s'appelle Fauda. Qu'est-ce que veut dire Fauda?
Le chaos.
Le chaos.
Le chaos. Fauda, parce que plein de raisons, mais Fauda surtout parce que je n'ai pas de menu dans mon restaurant. Je commence ma journée en allant voir les fermiers dans le souk de Bethléem et c'est eux qui décident de mon
menu. Votre périmètre pour vos ressources se situe à combien de pas?
Mon périmètre de chez moi jusqu'à Oum Nabil, qui est cette fabuleuse dame qui vend des herbes qui viennent des villages autour de Bethléem, c'est 50 pas. Et puis de Oum Nabil jusqu'à mon boucher, c'est 50 pas. Et du boucher jusqu'au restaurant, c'est 50 pas.
Voilà. Donc 150 pas et on a toute la cuisine pas, de Fadi Katan.
Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais chaos parce que J'arrive dans ma cuisine avec mes produits et puis on commence à réfléchir au menu. C'est un menu fixe. Amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Et puis de temps en temps, un plat de plus. Un amuse-bouche de plus. Ça dépend parce que vous savez, un cuisinier, même si on veut bien dire au monde que nous sommes très méthodiques, nous ne sommes pas méthodiques. Et puis il y a un moment où il y a une herbe, une coupe de viande qui va vous inspirer encore plus et vous partez avec. Et vous
c'est
dites,
la tempête.
Et c'est là, on fait quelque chose d'autre avec.
Donc on est dans une cuisine palestinienne. C'est un cuisinier franco-palestinien qui cuisine une cuisine palestinienne.
C'est un cuisinier franco-palestinien avec des petites influences indiennes qui cuisine sa cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, un chef de cuisine cuisine sa cuisine. Donc c'est une cuisine palestinienne, puisqu'elle est mienne, et je suis palestinien. C'est des produits palestiniens locaux, mais c'est mon interprétation. Je brave la déconstruction de certains produits, certains plats, certaines utilisations que je vais transformer.
Réinventer.
Différemment. Oui, la moulouchia, par exemple, cette herbe.
Mais comme vous êtes généreux, on n'est même pas à la moitié de l'émission que déjà vous parlez de moulouchia.
Mais je frie ma moulouchia, vous me demandez ce que je fais. Je fais frire les feuilles de moulouchia.
Alors, on est d'accord, la moulouchia, c'est un plat du pourtour méditerranéen, presque identitaire dans certains pays, notamment en Tunisie.
En Égypte.
En Égypte, qu'on découvre également au Japon, grâce à Ryoko Sekiguchi, qui nous a fait découvrir cette moulouchia japonaise. On pensait qu'elle était juste méditerranéenne, mais pas du tout. Elle voyage. Je vous propose de l'écouter quand même, cette moulouchia, parce que vous êtes allé en préparer une dans un endroit bien précis.
Jéricho.
À Jéricho.
Salam alaikum. Marhaba. Shukran, mstaqbilouna indko. Im Ashraf ou Im Youssef. Min min.
Im Youssef.
Im Ashraf. Shukran ilko. So we're in Jericho with Yusuf and Ashraf to cook a fantastic dish, moulouchia. Moulouchia is a funny herb. It's called Jew's mallow, jute mallow, moulouchia. You find it across the Mediterranean area. The best moulouchia in the world comes from Riha, from Jericho.
La meilleure moulouchia du monde vient de Jericho. Donc vous préparez cette herbe qui a des noms un peu fantasques. Hein. On a dit c'est l'herbe de juive également.
Mouve. Juive,
la mauve juive.
Ou la mauve, tout simplement. Après, mauve juive, c'est intéressant. C'est parce qu'elle est venue en Europe avec les Égyptiens de confession juive. Et c'est là où le nom en anglais a été attaché à elle. C'est une tradition, comme vous le disiez, du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen même, mais cuit très différemment. Essayez de donner à un Tunisien une moulouchia palestinienne, il ne reconnaîtrait pas, et vice-versa. Et moi, je m'amuse à la frire. Elle est superbe, délicieuse, frite, juste les feuilles frites. C'est vraiment un des jeux que j'aime bien avoir en cuisine, c'est remettre en question les textures, sans les dénaturer. Je ne vais pas sur une cuisine moléculaire, mais c'est juste utiliser des petites cuissons différentes.
Justement, à propos de connaître un produit, est-ce que les Palestiniens qui aujourd'hui ont 16 ans, 18 ans, est-ce qu'ils connaissent ces produits? Est-ce qu'ils connaissent leur histoire? On est où dans cette connaissance de la cuisine palestinienne, Fadi?
Les Palestiniens qui ont 16, 18 ans, il faut se rappeler, c'est des Palestiniens qui sont nés après la construction du mur de séparation par Israël, qui divise le territoire palestinien, qui divise Gaza de la Cisjordanie, qui divise la Cisjordanie entre elle-même, qui divise surtout la Cisjordanie de Jérusalem. Donc ils ne connaissent pas la cuisine palestinienne. Ils connaissent des bouts de la cuisine palestinienne. Et puis, culturellement, Jaffa, Haïfa, c'est palestinien. C'est notre histoire. Et là, ils sont complètement divisés de cette région-là. Vous savez, une des grandes pertes qu'on a eues par la création d'Israël, puis la séparation, ça a été le lien qu'on avait avec la terre. Le lien déjà qu'on a avec la mer, avec la Méditerranée. Si vous avez 16 ans à Bethléem aujourd'hui, vous n'avez jamais vu la Méditerranée.
Et vous ne pouvez pas aller la voir.
Et vous ne pouvez pas aller la voir. Votre seule connaissance de la mer, c'est la mer morte. C'est pas forcément une mer, d'ailleurs, avec des poissons, c'est pas une mer avec des crustacés. Tandis que notre cuisine a quand même été très influencée par cette mer, non seulement par les produits de la mer, mais aussi par le fait qu'on a été sur les routes du commerce, on a été sur la route des épices, on a été sur la route de la soie qui passait par la mer. Vous savez, Gaza était un port grec où les résidents de la région de Gaza parlaient grec bien avant l'arabe. Les Phéniciens ont eu leur poste de commerce sur cette côte méditerranéenne. Tout ça est venu par là. Notre café arabe, qu'on adore, est composé de café du Yémen et de cardamome qui venait d'Inde. Donc c'est quand même un moment, cette richesse-là, qu'aujourd'hui un Palestinien de 16 ans n'a pas. D'un autre côté, ce qu'on a en Palestine, comme partout ailleurs d'ailleurs, c'est la globalisation de la cuisine. C'est un faux fettuccine Alfredo au menu des restaurants, c'est un faux chicken Kiev.
Mais c'est le pire, non ?
C'est un désastre.
Le fait que du coup ça gomme cette culture et cette histoire. Je vous propose à nouveau d'écouter Hint Tarboub. Parce que quand nous avons enregistré une émission avec Hint, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas saisi sur le moment. On parlait de houmous.
Ah.
Franchement, tout le monde croit que nous, on mange que de houmous. Alors qu'on ne mange presque pas de houmous. On ne le fait pas. Ma grand-mère n'a jamais fait le houmous à la maison. Ce n'est pas un plat de maison. C'est un plat de street food, pas restaurant, à cafétéria.
Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle racontait aussi qu'elle était arrivée dans une fête à Paris, que tout le monde dit « Ah, mais t'as pas pris de houmous ?» Et comme si ça devait être évident. Donc il y a une espèce de grand mélange, peut-être que je le fais encore là d'ailleurs, Fadi, avec vous, grand mélange de qu'est-ce qui est quoi, d'où vient quoi. Et tout ça se fond dans cette approche aujourd'hui internationale et mondialisée de la cuisine jérusalémite.
Jérusalémite, c'est un mot magique. Ça veut rien dire.
Et voilà.
Et ça veut tout dire. Le houmous, si, on mange beaucoup de houmous.
Elle pas, mais...
Elle pas, mais ça, c'est peut-être sa famille qui ne mange pas de houmous. Par contre, ce qu'elle dit, ce qui est assez vrai, ma grand-mère n'a jamais fait de houmous non plus. On l'achète. Parce qu'il y a des gens qui font du houmous.
Oui, c'est ça, c'est un.
Professionnellement, des houmous excellents. Après, moi, je m'amuse à le faire. Parce que, vous savez, le truc du houmous. Un bon houmous, c'est beaucoup d'huile d'olive dans le houmous. Et ça, il n'y a aucun artisan qui le fait, qui va être aussi généreux.
Mais non, c'est cher.
C'est cher, bien sûr. Moi, mon fournisseur en huile d'olive rigole depuis le début de la pandémie en me disant « Mais tu as fermé ton restaurant, pourquoi est-ce que tu achètes encore autant d'huile d'olive ?» Et c'est parce que j'en mets partout. C'est un peu le secret d'un bon houmous. Mais oui, on fait ça. On est réducteur de la cuisine palestinienne en pensant que c'est juste une street food. En pensant que c'est juste les mézés, qui sont d'ailleurs pas palestiniens. Les mézés sont partagés par les Syriens, les Libanais, les Turcs, les Grecs, les Chypriotes, les Jordaniens. Vous savez, à Bethléem, il y a 30 ans, on sortait manger des mézés, des grillades. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas à la maison. C'est pas vraiment la cuisine palestinienne. La cuisine palestinienne, c'est le msakhan, c'est le mansaf, c'est les tripes farcies, c'est vraiment tout ça.
Donc des plats plus familiaux, plus grands, qu'on va partager.
C'est des plats qu'on attend. D'où votre musique du trio Joublin, les Mahmoud Darwish, Intadirha, où il parle de l'attente d'une femme, mais c'est aussi l'attente d'un plat. C'est des cuisines à longue cuisson. C'est souvent cet agneau entier qu'on va cuire pendant 8-10 heures. C'est des sauces qui vont cuire pendant 3-4 heures. Et puis surtout, il faut se rappeler, quand on parlait de l'utilisation d'un animal en entier, on n'utilise que des bouillons faits à la maison. La base de toutes ces recettes à sauce, donc le mansaf avec son yaourt, ou la bamiyeh avec sa sauce tomate, la base,
c'est bamiyeh, on est d'accord, c'est gombos. Des gombos.
Et les gombos avec ou sans coriandre. Mais toujours une sauce tomate, beaucoup d'ail et beaucoup d'huile d'olive. Et une viande d'agneau. C'est beaucoup d'agneau, d'ailleurs, la cuisine palestinienne. Le bœuf est assez récent. C'est beaucoup d'agneau. Par contre, c'est vraiment ces sauces qui vont prendre des heures à faire. Et c'est cette attente et où à un moment, oui, la famille se retrouve autour de ce plat. Et aujourd'hui, le défi, c'est comment transformer ça en plat de restauration gastronomique, du moins, avec des interprétations différentes, mais garder cette essence-là.
Garder cette essence-là et arriver à la transmettre, cette essence-là.
La transmission.
Claire Bastier est une ancienne correspondante de la presse française à Jérusalem et elle s'est rendue deux fois dans votre restaurant. Et donc, on lui a passé un coup de fil, vous imaginez bien.
Sa cuisine ne s'adressait pas nécessairement à un public seulement palestinien ou local, mais un public qui va avoir aussi un palais, qui va apprécier et être sensible à une cuisine un peu plus créative et un peu plus personnelle. C'est son projet de valoriser cette cuisine palestinienne et surtout en parler par rapport à une cuisine israélienne qui a le vent en poupe, et avec des restos qui ouvrent en Europe, aux États-Unis, etc. Après, en fait, Fadi a développé son identité culinaire et professionnelle via Instagram, ce qui a été un espèce de tremplin aussi pour lui. Avant lui, d'autres personnes avaient commencé à le faire, et je pense à Mirna Bamier, qui est une Palestinienne de Ramallah. Avant eux, Sami Tamimi, lui, par les livres au départ et après aussi par Instagram. C'est un territoire occupé, c'est un territoire qui va avoir des murs, des checkpoints. Enfin, il y a tout un contexte aussi géopolitique qui fait que, de manière physique, la Palestine n'est pas très accessible. Les Palestiniens sont connectés pour parler d'eux, pour parler de leur quotidien, etc. Et donc, en tant que chef cuisinier, Fadi a utilisé aussi cet outil pouvoir parler de sa cuisine personnellement et aussi parler de la cuisine palestinienne dont il veut être un des porte-parole.
Alors
Claire, que je connais bien, et son dernier livre sur le soumak d'ailleurs.
Paru aux éditions de l'Épure. Ce rapport qu'elle fait justement avec les Palestiniens qui sont très connectés, c'était aussi pour vous les réseaux sociaux une manière de mettre en lumière concrètement et de garder une mémoire de tout ça.
C'est un changement total.
C'est un fauda.
C'est un fauda. C'est un fauda. D'ailleurs, c'est un fauda où on s'expose énormément. Parce que je pense que la cuisine, c'est un moment, un instant de courage. Un chef de cuisine, quand il crée un nouveau plat et que ce plat part en salle, on attend le premier client, le premier retour. Et dans les réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est on écrit quelque chose et on attend. Qu'est-ce qu'on va se prendre dans la gueule? Et c'est superbe. Parce qu'à un moment, on se connecte à des Palestiniens dans la diaspora. On se connecte beaucoup à des gens qui sont juste curieux de cette cuisine. Effectivement, comme Claire le dit, c'est un territoire qui n'est pas si accessible que ça, même si je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on a eu dans le passé des occasions. Il faut se rappeler, effectivement, c'est un territoire qui est derrière des murs. Donc c'est un territoire dans lequel les Palestiniens ne peuvent pas sortir librement. Mais tout le monde peut visiter facilement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord sur le fait que ce territoire est inaccessible. Au contraire, c'est un territoire qui est à 5 heures de Paris. C'est un territoire qui est peut-être rendu inaccessible par les mythes. Les mythes de ce danger, les mythes de ces Palestiniens gaulois résistants. Il faut arrêter un moment. Il ne faut pas oublier, les premiers touristes du monde, c'était il y a 2000 ans. Ils s'appelaient les rois mages. Ils se sont pointés à Bethléem pour aller rendre visite à la Vierge Marie. Donc à un moment, non, cette tradition de l'hospitalité, elle était là. La réalité politique rend les choses difficiles, mais ce n'est pas difficile pour un voyageur. Au contraire, moi je continue à garder mon restaurant à Bethléem parce que je veux que les gens viennent à Bethléem. Oui, là, nous travaillons pour printemps prochain un restaurant palestinien à Londres de cuisine moderne. Après, je pense que là où il y a vraiment beaucoup de discours autour de la Palestine, il faut se rappeler quelque chose. La Palestine vit des défis politiques, ne vit pas forcément des défis économiques. On reçoit énormément d'aide internationale qui est mal utilisée très souvent. Les fermiers palestiniens n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Par contre, là où ils ont besoin d'aide, c'est à ce qu'Israël arrête de leur piquer leurs terres et leurs eaux. Ça me dérange quand on parle de misère. Je ne cherche pas à sauver la cuisine palestinienne. Je la préserve, je la transmets.
Vous la mettez en lumière.
Je la mets en lumière, mais je ne la sauve pas. La cuisine palestinienne est sauvée par elle-même. Elle n'a pas besoin de moi. Elle a besoin d'aucun chef de cuisine, d'aucun acteur de la cuisine pour la sauver. Et ce n'est pas un écrit de plus ou un écrit de moins ou trois photos Instagram qui vont la sauver. Par contre, la magie d'Instagram, pour moi, c'est prendre des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la cuisine.
Et justement, les échos. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Ah, j'ai eu droit à tout, moi. On me traite de terroriste, parfois.
Bon.
Comme je défends beaucoup la diversité de la Palestine, on me traite souvent de quelqu'un qui n'est pas forcément clair sur ses lignes politiques, alors que je suis très clair sur ma ligne politique. Mais surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand quelqu'un m'envoie une photo de quelque chose qu'ils ont cuisiné.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
بسبوسه لتيم حمص ايوه ترقص لتيم حمص بسبوسه لتيم حمص طبعا عريس لتيم حمص بسبوسه لتيم حمص ايوه ترقص لتيم حمص بسبوسه لتيم حمص طبعا عروس لتيم حمص مونكير ايتا مبرومي ما maximum de cardamome dans le café Habib LB, petit baklava, lâche tes cheveux d'ange, parfum de roux, de mousse, fleur d'oranger, jeunesse dorée, jet set, zaatar, sésame pour toi, roule une feuille de vigne, j'ai frité le halva, cherche pas, cher, McLaren contrôle le game, Floreline, Hammer, Yabetien, Dine, c'est la même, pistache sur place de bagage, puis les petits pas de tape qui est gang raffiné, rajoute du tahiné. بوس بوس سلاتيم حمص أيوة طرقص سلاتيم حمص بس بوس سلاتيم حمص عريس سلاتيم حمص بوس بوس سلاتيم حمص أيوة طرقص سلاتيم حمص بس بوس سلاتيم حمص عروس سلاتيم حمص دوت كويير تراس ماندالا بوت ديل dans le désert de Rantara des bouffies des grenades en mélasse dans une cascade d'eau de rose de Damas hey t'es pas chiche t'as ouk te couper une orange en spirale Fawaki en cocktail Saint Graal C'est pas toujours la fête quand la guerre arrache des vies Mais tant que les falafels seront bien frits, c'est toute une légacy qui survit Chouaï, chouaï, sirote ton chai, chai Lorsqu'en Orient est la lune en hilal Petit pas de dabke, gang, gang à la billet N'en fais pas, tout en mal habillé
Excusez-moi, vous auriez du houmous de betterave ?
Team Hummus de Juan Hussein sur RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est notre invité, Fadi Katan, chef cuisinier franco-palestinien à Bethléem, qui nous l'a fait découvrir ce morceau. Il est drôle.
Il est drôle. Et
assez brillant.
Brillant, c'est un poète, ce Juan. Il touche vraiment l'orientalisme. Parce que nous, on en a marre.
Et les clichés aussi.
De l'orientalisme cliché. On en a marre. De temps en temps, j'ai des gens qui s'attendent à ce que je porte un tarbouche et que je sois un djellaba dans ma cuisine.
Mais je m'attendais à ce que vous arriviez comme ça, d'ailleurs, tout à l'heure.
Et là, vous avez la tête d'un
cuisinier.
D'un barbu cuisinier, comme on peut l'être.
Et très
Moi,
passionné.
J'ai adoré ce morceau parce qu'il est, il a mis ses doigts là où ça fait mal. La tchina. Oui, la tahina est palestinienne.
Elle Alors, la curée de sésame, on dit.
La tahina a été faite dans les presses de sésame à Nablus, à Jérusalem. De sésame qui était planté sur les collines qui vont de Haïfa jusqu'à la côte, donc dans la ville de Haïfa, qui aujourd'hui a disparu. Depuis 1948, les Palestiniens n'ont plus accès à ces terres-là. Donc aujourd'hui, on importe notre sésame d'Éthiopie. On l'a importé du Soudan à un moment... Ma famille a été à un moment, puisqu'on était dans le textile, d'ailleurs, le nom Katan veut dire cotonnier.
D'ailleurs, j'ai dit Katan depuis le début, mais...
On dit en français Katan. On était dans le textile. J'avais un grand-oncle qui était installé au Soudan. Quand on s'installait quelque part, on vendait autre chose aussi. Et puis, on a vendu du sésame vers la Palestine. Aujourd'hui, c'est produit avec du sésame éthiopien en Palestine. Mais ce trina, ce hummus, moi, j'adore. Parce que j'adore les voir sur les étagères à Paris, à Londres, avec des labels de toutes sortes. Et là, il a touché vraiment sur cette corde-là notre identité commune, d'ailleurs, puisque lui est d'origine syrienne, si je ne me trompe pas.
Oui.
Sur cette identité commune de cet Orient, avec un peu de soleil quand même.
J'aimerais bien qu'on aille à Hébron. Je vous explique pourquoi Hébron, parce que déjà c'est la plus grande ville palestinienne, un condensé du conflit, dites-vous dans l'épisode de la série qui concerne Hébron. Une image de l'histoire palestinienne et également la réalité de cette occupation très présente dans la vie. Et quand on regarde l'épisode, on voit Hébron, on voit le mur, on voit les checkpoints et puis on voit la cuisine. C'est la vie.
C'est toujours la vie. Hébron, c'est une ville qui me fait mal à voir. Parce que c'est une ville superbe, la vieille ville d'Hébron. Divisée avec une colonie en plein milieu de la ville. Le lieu saint qui divise, c'est le tombeau des patriarches, le tombeau d'Abraham, divisé en deux par un mur par balle, avec d'un côté une synagogue, d'un côté une mosquée. Pour moi, agnostique athée, ça n'a aucun sens qu'il y ait des prétentions de propriété d'une terre basée sur un texte biblique. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je vois très mal cette terre donnée à une population par un texte qu'on peut croire ou pas, d'ailleurs. Hébron, on sent ça. On sent qu'il y a d'un côté une folie mystique, religieuse, qui s'empare de tout le monde. Et à un moment, moi, je rigole, mais c'est triste parce que c'est, il faut pas oublier que ce caveau des patriarches, il y a 20 ans, 25 ans, il y a eu un colon qui a attaqué des Palestiniens musulmans en priant et qui a massacré ces gens-là. Il ne faut pas oublier qu'en 1929, la communauté juive d'Hébron a été attaquée par des villageois qui venaient hors d'Hébron et a été protégée par leurs voisins hébronites, parce que la communauté juive d'Hébron de 1929, c'était une communauté juive palestinienne, hébronite, et non pas les colons aujourd'hui qui arrivent des États-Unis, de Russie, de France, etc., qui s'installent en disant « Dieu nous a donné cette terre ». Et en même temps, ce qui est superbe dans Hébron, c'est qu'on y fait encore des rahas, les loukoums palestiniens, depuis 100 ans.
D'ailleurs, vous allez goûter les loukoums. Vous ne faites pas que ça à Hébron. Vous vous baladez aussi dans le souk, vous allez goûter du soumak. Vous, vous l'achetez en grain, presque en épi de soumak ou,
oui, moi, je l'achète en épi ou en grain.
Donc, c'est vraiment un goût...
Un peu de citron, un peu d'acide et un petit piquant quand même.
Vous achetez aussi des tomates séchées. Et alors, vous achetez ce fromage qu'on ne connaît pas du tout.
Le Laban Jamid.
Le Laban Jamid, qui est un fromage, alors qui est même étonnant par sa forme. Il est ovale et il est dur comme de la pierre, je crois.
En fin de séchage. Donc, c'est un fromage très salé. Au fait, c'est un yaourt à l'origine salé qu'on utilise pour faire le mansaf, le chouchbarak, les courgettes farcies dans du Laban. Donc, il est séché puisqu'il vient de la tradition bédouine. Et les Bédouins, dans le désert, avaient comme moyen de préservation le séchage. On le réhydrate pour en faire ses sauces traditionnelles. Et puis moi, je m'amuse à le râper. Quand il n'est pas encore séché, à l'effriter sur des soupes, sur des salades. Ou à le cuire, je l'effrite et je le fais revenir dans une poêle. C'est délicieux. Petit secret, je voyage toujours avec du soumak, de l'huile d'olive, du za'atar. Et parfois du Laban Jamid.
Bon, très bien. Nous avons rendez-vous alors, Fadi. J'aimerais juste, parce que c'est un plat qui est pour moi synonyme de la Palestine, c'est le msahan.
Ah.
Alors, le msahan, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a trois ingrédients fondamentaux. Il y a du soumak dans le msahan, il y a du pain. Le pain taboun, qui est même dans sa confection, dans la manière dont il est cuit dans un four, qu'on a l'impression qu'il est gondolé. Et puis, il y a l'huile d'olive.
So now... We had the olive oil from Sebastia, the bread baked by Muhammad. We're ready for the msakhan. Msakhan is easy, but it takes good. The quality of the produce is important.
Donc le msakhan, l'huile d'olive que vous étiez allé récupérer à Sebastia. Ensuite, vous avez vu confectionner ce taboun. Puis, donc le msakhan, ce poulet qui est sur du pain avec de l'huile d'olive et du soumak et des oignons.
C'est un plat qu'on fait pour célébrer l'huile d'olive. Et là, on a eu la chance à Sébastia d'être avec un ami à moi qui s'appelle Abou Mohamed et d'aller récolter ces olives et puis d'aller dans la presse et goûter cette huile d'olive toute fraîche qu'on a emmenée avec nous chez cette teta qui avait préparé le taboun. Le taboun, avec cette forme gondolée, puisqu'il est cuit dans un four à bois sur des petits galets venant de la mer morte, très souvent. Et l'oignon est revenu quasiment confit dans de l'huile d'olive, du soumak, un peu de sel. Et puis on construit ce plat avec une galette de pain, ces oignons, soumak, huile d'olive. On trempe le pain dans l'huile d'olive.
Oui, c'est
trempé. On a trempé, là c'est moi.
Non, c'est badigeonné.
Normalement c'est badigeonné, sauf que moi ce que j'ai fait d'ailleurs dans cette cuisine à Sébastia, c'est que j'ai versé le reste de la casserole d'huile d'olive. Cette huile d'olive était tellement bonne. Je me suis fait un peu taper sur les doigts par les deux grand-mères qui étaient là, mais elles ont bien aimé le plat à la fin. Et ce poulet rôti dans du soumak.
Et en goût c'est magique.
La meilleure façon de le goûter, c'est de déchirer un morceau de cette galette avec un peu de ces oignons, trempé d'huile d'olive et un tout petit peu de ce poulet rôti. Et c'est encore une fois une bouchée. Et c'est pour moi un goût de la Palestine. C'est un de nombreux goûts, mais c'est un goût qui résume un peu cette Palestine méditerranéenne.
Est-ce que vous connaissez d'ailleurs le goût de la Palestine d'avant 48? Ce secret qu'ont les grands-mères, peut-être celles qui sont nées dans
On
les années 30.
On vit avec nostalgie de ce goût. Quand je vois les photos, quand j'entendais le récit de mes grands-parents, j'ai vraiment envie de pouvoir goûter mes orangers à Jaffa, qui ont été confisqués en 48. J'ai envie de goûter le glacier de la ville de Ramla, pas loin de Tel Aviv. Ce sésame de Haïfa, Mais j'ai surtout envie de m'installer au bord de la Méditerranée, à Gaza, et de goûter à cette zebdiyet gambari, qui est un plat en terre dans lequel sont cuits des gambas. C'est des goûts qu'on vit avec, qui d'ailleurs forment peut-être un peu ce qu'on essaie de faire en cuisine aujourd'hui. Cette nostalgie d'une Palestine d'avant. Cette Palestine où le voyage était simple, où la transmission était possible et où les saisons étaient vraiment des saisons.
Est-ce que vous pensez que la Palestine, la cuisine palestinienne aujourd'hui, vous diriez que c'est la cuisine d'un peuple ? C'est la cuisine d'un exil ? C'est la cuisine de quoi ?
C'est la cuisine des exils et d'un peuple résilient, têtu, comme je peux l'être. Un peuple qui ne se laissera pas voler sa cuisine. Un peuple qui célèbre la vie. On parlait d'Hébron tout à l'heure. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train d'écrire le moratoire
pages, oui, c'est ça.
De la cuisine palestinienne.
Absolument.
La cuisine palestinienne ne disparaît pas. Il faut arrêter, pour des raisons peut-être personnelles d'ailleurs, de dire mais la cuisine palestinienne disparaît, la cuisine palestinienne a besoin de héros pour la sauver. Il faut arrêter. La cuisine palestinienne vit dans chaque famille palestinienne, dans chaque individu palestinien. Vous savez, le nombre de personnes qui m'envoient des questions des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre, de l'Asie, de gens qui sont soit palestiniens, soit qui ont passé un moment en Palestine avec des questions sur des recettes. Cette cuisine, elle vit, elle se développe. C'est une belle cuisine. C'est pas les 10 écrivains culinaires palestiniens qui vont sauver la cuisine palestinienne. Dont moi, d'ailleurs. Moi, ma cuisine, elle est, c'est une cuisine qui ne restera pas, qui pourra peut-être changer quelque chose, tout petit, même pas une marche, mais elle ne restera pas.
Mais en tout cas, elle s'entend.
Ah, elle s'entend fort.
Et elle vit clairement, quand on vous regarde, quand on écoute tes podcasts, quand on regarde la série, elle est clairement vivante.
Elle est résistante dans le sens où elle s'en prend plein la gueule, cette cuisine. Elle est menacée d'occupation, de manque de terre, d'appropriation culinaire. Et finalement, cette cuisine, elle résiste. Mais oui, elle est réjouissante. Finalement, qu'est-ce qu'on fait en cuisine ? On manie le feu, les températures, une découpe, pour créer un instant de lumière. Et c'est vraiment ce plat palestinien, ce plat préparé par un chef, préparé par une tête, par une grand-mère, qui partage ce plaisir.
Cette lumière. Merci. D'ordinaire, on demande un ingrédient et un ustensile.
Le soumak, parce que le soumak, c'est une épice qu'on connaît mal, qu'on n'associe pas à la Palestine. On l'associe très souvent à la cuisine perse. Mais là, c'est du soumak de la région d'Hébron. De chez Jamjoum, l'origine des graines est puis faite dans un petit épicier palestinien, Orient Mills, à Bethléem, qui est là depuis 1936.
Un ustensile ?
C'est ce plat en terre qu'on utilise pour réhydrater le laban jamide, qu'on fait tremper dans un peu d'eau tiède. On tourne ce laban jamide sur les parois de ce plat en terre, le son magique.
Merci Fadi.
Merci bien.
Fadi Katan, chef du restaurant Fauda à Bethléem. Teta's Kitchen, les films sont sur YouTube, sur votre page aussi Fadi. Profitez d'un peu de temps pour vous abonner au Goût du Monde. Nous on adore lire vos commentaires et savoir que vous aimez nous écouter. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission et à vous tous bien sûr qui nous écoutez. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.
À l'heure sur